Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Aujourd'hui, Droit Devant fait son retour sur un sujet dont je souhaite vous parler depuis longtemps, relatif aux lanceurs d'alerte. Et j'évoque le sujet des lanceurs d'alerte en vous parlant en support d'un dossier spécifique que l'on a traité sur le sujet au cabinet. Quand on parle de lanceurs d'alerte aujourd'hui, on a tout de suite en tête les plus connus. Et parmi ces lanceurs d'alerte les plus célèbres, on retrouve par exemple celui qui en 1972 va révéler à des journalistes américains des informations sur l'implication du président des États-Unis Nixon dans le scandale du Watergate, que l'on a nommé « Gorge profonde ». On pense aussi en matière d'environnement et de santé à Erin Brockovich, qui a inspiré le film éponyme et qui décrit l'affaire du chrome hexavalent dans l'eau potable d'une ville en Californie. Donc en fait, Erin Brockovich va découvrir elle-même les problèmes de santé publique en travaillant comme adjointe juridique sur différentes demandes d'indemnisation. Et puis, elle va obtenir des condamnations extrêmement élevées, 333 millions de dollars pour les victimes à l'issue d'un procès. Dans le renseignement, on a encore Edward Snowden, ancien employé de la CIA et consultant de la NSA, qui a rendu public en 2013, 2014, 2015, par l'intermédiaire de plusieurs journaux américains, de nombreuses révélations sur les programmes de surveillance de masse de la NSA. Et notamment, il a révélé, en juin 2013, un système d'écoute lancé par le gouvernement américain pour surveiller les données des internautes sur des sites comme Google, Facebook, YouTube, Microsoft. Edward Snowden en a tous en tête qu'il a été exilé longtemps à Hong Kong, à Moscou, et qu'il a fini par obtenir un asile temporaire en Russie. En France, on peut citer le cas d'Irène Frachon, une pneumologue qui a dénoncé dans un livre le scandale du Mediator, paru en 2010, et donc dans lequel elle évoque la toxicité de ce médicament qui entraîne une hypertension pulmonaire mortelle. Évidemment, il en existe bien d'autres, mais voilà à quoi on pense spontanément quand on parle de lanceurs d'alerte. Alors évidemment, il en existe bien d'autres, mais le principe du lanceur d'alerte, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il arrive qu'une personne ait connaissance de faits illicites commis au sein de son entreprise. Que doit-elle faire dans ces conditions ? Est-ce qu'elle doit se taire, laisser l'infraction se poursuivre ? Ou est-ce qu'elle doit, au contraire, parler au risque de se faire sanctionner ? Et c'est pour permettre aux lanceurs d'alerte de bénéficier d'une protection spécifique et de cesser de se poser cette question et d'avoir à être confronté à cet arbitrage que la loi du 9 décembre 2016 est intervenue pour prévoir un régime général de protection des lanceurs d'alerte, une protection qui leur est donc dédiée. Alors, l'épisode est un peu dense, donc il va être découpé en deux parties. Dans la première partie, donc, on traitera du sujet de savoir qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte, qui peut bénéficier de ce statut de lanceur d'alerte, comment faire pour lancer une alerte une fois qu'on a identifié des faits qui peuvent relever de ce dispositif. Et puis, dans un second temps, on traitera du sujet de savoir quelle est l'étendue de la protection du lanceur d'alerte, comment est-il protégé par la loi. Et ensuite, je vous parlerai de ce dossier, un dossier qui met en lumière un grave conflit éthique sur un fond de crise sanitaire liée à la Covid. Et donc, j'en parlerai dans le deuxième épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de l'épisode avec les points que j'ai évoqués, je prends juste 10 petites secondes pour vous rappeler un petit reminder que toutes les notes que vous nous laissez sur les différentes plateformes nous aident beaucoup à faire connaître ce podcast. Donc n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou encore mieux, un petit mot. J'en profite pour remercier Issam Azam qui nous a laissé un avis instructif et efficace. Je suis dirigeante d'entreprise, mais ma culture juridique est très élémentaire. Ce podcast, avec la variété des sujets abordés et la vulgarisation dans la présentation, est une excellente introduction au droit du travail. Instructif et efficace. Grand merci. Donc voilà, faites comme Issam. N'hésitez pas à nous donner de la visibilité, à faire connaître notre travail sur ce podcast et à nous noter sur les différentes plateformes. Donc merci pour le temps que vous y consacrerez. Et tout de suite, donc du coup, dans le cœur du sujet, eh bien, qu'est-ce que c'est d'abord qu'un lanceur d'alerte en France ? Un lanceur d'alerte, c'est une personne physique qui va signaler, sans contrepartie financière directe et en étant de bonne foi, des informations qui vont donc porter soit sur un crime, soit sur un délit, ça peut être également une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Le salarié va aussi pouvoir alerter son employeur d'un risque grave que l'entreprise ferait courir à la santé publique ou à l'environnement. Donc les informations doivent porter nécessairement sur des faits qui se sont produits ou pour lesquels il existe une forte probabilité qu'ils se produisent. Et il va pouvoir s'agir notamment de faits de harcèlement moral ou sexuel qui relèvent justement de ce régime de lanceur d'alerte. Alors, qui peut être lanceur d'alerte en France ? Eh bien, dans une entreprise, il peut s'agir d'un salarié ou d'un ancien salarié, mais il peut également s'agir de personnes qui se sont portées candidates à un emploi. Et donc, les informations dont ces personnes ont eu connaissance doivent avoir été obtenues soit pendant l'exécution du contrat de travail, soit dans le cadre de la procédure de candidature à l'emploi. Autre question que l'on nous pose très régulièrement en cabinet, c'est comment est-ce qu'on fait pour lancer l'alerte concrètement ? Quelles sont les options qui s'offrent à nous ? Il existe trois options pour lancer une alerte en France, soit ce qu'on appelle le signalement interne, soit le signalement externe, soit ce qu'on appelle la troisième option, c'est-à-dire la divulgation publique. On va parler de signalement interne quand un salarié va signaler des faits au sein de la structure juridique, au sein de l'entité où les faits se sont produits. À l'inverse, on parlera de signalement externe lorsqu'on transmettra, donc lorsque le salarié va transmettre ses informations à des autorités qui sont prévues par la loi. Le signalement externe n'est donc pas public. Il s'adresse à des personnes spécifiquement désignées. Et je vous dirai de qui il s'agit tout à l'heure. Et puis la troisième alternative, c'est donc la divulgation publique, c'est-à-dire par un moyen de communication accessible à toutes et à tous, par exemple un réseau social ou un journal, eh bien un salarié va divulguer publiquement des faits dont il a eu connaissance. Mais attention, cette divulgation publique, elle est soumise à des conditions plus strictes que le signalement interne ou externe. C'est-à-dire que si on veut bénéficier de la protection des lanceurs d'alerte, il faut être très vigilant parce que la divulgation publique est circonscrite dans des conditions assez particulières. Et on en parlera juste après. Alors, pour en revenir dans un premier temps au signalement interne. Donc, si je constate ou que je soupçonne un organisme au sein duquel je travaille de commettre des faits susceptibles d'être dénoncés en tant qu'alerte et que je pense que je peux y remédier directement et que je ne risque pas de représailles, alors on est dans la configuration où on peut effectivement effectuer un signalement interne, c'est-à-dire transmettre mes soupçons à un organisme, à cet organisme interne, dans le but de mettre fin à ces agissements. Par exemple, vous avez un comité éthique dans votre entreprise ou vous avez une personne, ça peut être un DRH ou ça peut être une personne désignée et vous savez que vous pouvez livrer sans crainte, donc c'est une personne qui représente la direction, hein, mais vous pouvez livrer sans crainte ces faits ou ces soupçons que vous avez. Alors à ce moment-là, vous allez réaliser un signalement interne. Je précise également au passage que la mise en place d'un ce qu'on appelle un canal de signalement, c'est-à-dire une procédure officielle de signalement interne, est obligatoire dans les entreprises qui emploient plus de 50 salariés. Mais il faut savoir que toutes les sociétés, malgré cette obligation qui existe, ne mettent pas en place ce canal de signalement. Et que davantage, parfois, le canal de signalement existe, mais que les conditions du canal de signalement ne permettent pas de lancer une alerte en toute sécurité. Donc, si on a le sentiment qu'un signalement interne va nous mettre en danger, qui ne permettra pas de régler les dysfonctionnements qu'on a constatés, ou que ça va générer une disparition des preuves qu'on a identifiées, alors à ce moment-là, on renonce à faire un signalement interne. On ne fait pas de signalement au sein de son entreprise, on va plutôt faire un signalement externe. Ça nous permettra en tant que lanceur d'alerte d'être protégé de la même manière qu'avec un signalement interne, mais avec les risques de représailles en moins. Concrètement, Dans les dossiers que l'on traite au cabinet, c'est ce signalement externe que nous recommandons spécifiquement à nos clients et non pas le signalement interne qui est trop générateur de stress et qui ne permet pas de s'assurer que les faits seront portés à la connaissance des interlocuteurs dédiés de façon parfaitement sécurisée. Donc quand on a un risque de représailles, on abandonne le signalement interne au profit du signalement externe. Donc le signalement externe, concrètement, en quoi il consiste ? Ça consiste à transmettre donc, les soupçons que l'on a ou les constatations que l'on a fait à une autorité qui est compétente dans le but de mettre fin à ces agissements. Et à quelles autorités concrètement on peut transmettre ces éléments ? Eh bien, soit au défenseur des droits qui pourra traiter l'alerte, s'il est compétent, soit alors à ce moment-là réorienter, c'est-à-dire vers l'autorité la plus à même de la traiter. On peut faire réaliser une alerte auprès du juge, auprès d'un juge, qu'il soit judiciaire ou administratif. On peut également faire réaliser des alertes auprès des autorités compétentes, par exemple la CNIL, par exemple la DGCCRF, la DGT, la DGEFP. Donc, il y a une liste d'autorités compétentes auprès de qui on peut dénoncer des faits. Donc, effectivement, l'inspection du travail est complètement compétente pour recevoir les témoignages et des dysfonctionnements que vous auriez pu identifier. Donc, ça, c'est pour le signalement externe, qui est l'autre alternative qui s'offre à vous en tant que lanceur d'alerte. Et enfin, il en existe une troisième, c'est la divulgation publique que j'évoquais tout à l'heure. Donc on va relayer un signalement sur les réseaux sociaux ou en l'adressant directement à des médias. Cette divulgation publique, elle est restreinte parce que on peut le faire sans risquer de perdre le bénéfice de la protection des lanceurs d'alerte seulement dans des cas précis. C'est-à-dire, soit parce que vous avez déjà réalisé un signalement externe, celui dont je vous parlais juste avant, ou éventuellement même interne, mais qu'aucune mesure appropriée n'a été mise en œuvre pour remédier au fait que vous avez dénoncé, dans un délai de 3 à 6 mois. Voilà, en fonction de l'autorité saisie, il y a un délai de 3 à 6 mois qui se déclenche, et si rien n'a été fait dans le délai, à ce moment-là, vous avez la possibilité de passer à l'étape de la divulgation publique. Autre alternative qui vous permet de passer directement à l'étape de la divulgation publique, c'est quand votre alerte intervient dans un cadre professionnel en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général. Notamment parce qu'il existe par exemple une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible. Autre possibilité, vous craignez, si vous réalisez un signalement externe, de courir un risque. Ou alors, vous avez toutes les raisons de penser qu'un tel signalement externe ne permettrait pas de mettre fin à la situation que vous voulez dénoncer. Voilà, donc ça peut être le cas, par exemple, si des preuves risquent d'être détruites ou cachées, ou si vous avez des raisons sérieuses de penser que l'autorité à laquelle vous devez vous adresser et les faits que vous dénoncez précisément, eh bien, ils entrent en conflit d'intérêts. Donc là, vous pouvez passer directement à la divulgation publique. Si vous respectez ces étapes que je viens de vous exposer, à ce moment-là, vous pourrez alors bénéficier de cette protection du lanceur d'alerte. Dans le prochain épisode, je vous parlerai justement de l'étendue de la protection, c'est-à-dire en gros le bénéfice de cette protection, quel est-il ? Quels sont les éléments qui vous protégeront, qui vous permettront de ne pas encourir de représailles notamment ? Donc je détaillerai ça. Et puis dans le prochain épisode, je parlerai aussi de notre dossier au cabinet, ce dossier de conflit éthique sur fond de crise sanitaire liée à la Covid. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.